Soyez les bienvenus avec Linda Cadron-Boujadis, Morgane Guéguignan, Fanny Olivier, Tom Lila, Tanguy Passureau, Daniel Morin et nos invités aujourd'hui, Alma Jodorowsky et Stéphane Strecker. Comme on vous l'a expliqué hier, Jérémy Régnier devait être notre invité aujourd'hui. Il est à l'affiche avec Alma Jodorowsky de ce film réalisé par Stéphane Strecker. Frappé comme tout le monde du cinéma par le départ prématuré, l'accident mortel de Gaspard Ulliel, et endeuillé par cette mort, Jérémy Régnier a préféré ne pas venir évidemment et être auprès des amis et de la famille. On le comprend totalement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué hier, nous rendrons à notre façon un hommage à Gaspard Ulliel qui a eu la gentillesse de venir plusieurs fois dans cette émission et nous réécouterons les moments de sa vie en bande originale, en musique donc avec ses commentaires. Nous réécouterons ces moments-là et évidemment à nouveau, nous avons une tendre pensée pour tous ses amis, ses proches, sa famille. C'est quand même triste, cet accident qui est venu le frapper en pleine vacances familiales avec les siens. Le film L'ennemi donc, porté par Jérémy Régnier, Emmanuel Berco, Alma Jodorowsky, parle d'un fait d'actualité qui est arrivé en Belgique. Fanny, que tu apparemment qui a marqué la Belgique. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette histoire. Un premier ministre.
À l'époque, vous aviez un gouvernement.
T'es pas au courant?
Non, bah.
Mais tu étais mineure, toi, à l'époque aussi.
Ah oui, et puis genre, il y a tellement de féminicides en ce moment que bah voilà.
Mais c'était pas en ce moment, ça remonte à quelques années quand même.
Bah alors oui, j'étais mineure.
Et le film s'appelle L'ennemi, voici donc le blind test.
Qui Tanguy.
Oui, Tanguy.
Alain Chamfort, L'ennemi dans la glace.
Oh là 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 là. Wow. Sur une note. Sur une note. Mais c'est pas
c'est
ça,
pas ça.
C'est
ça,
c'est Zazie, parce que Zazie nous dispose. C'est moi, c'est moi.
Donc en fait, j'ai faux.
Zazie.
C'est ça.
Bah ouais.
Non, pourquoi me dit ce que j'ai pensé?
Sur une note, il a eu faux.
C'est
sur
une note. Trop envie que t'es.
Ah, je pensais vraiment. Je suis désolé.
Non. En fait, il arrivera, oui. Il arrivera plus tard, en fait.
Ah ouais,
c'est moi qui en ai
pas.
C'est moi qui me suis tombé. Ouais, je suis désolé. Donc c'était bien L'ennemi dans la glace. Bravo, Leïla.
Merci.
Bah non, du coup.
Qui chante ça?
Leïla?
Oui.
Eddie Mitchell?
Non.
Ah, ça sonnait vraiment.
Ouais, mais le Tom ne bouge pas, donc c'est
Tanguy,
pas
L'ennemi dans la glace.
Oui.
Ton regard me glace, souris, mais moi je le connais.
Tu t'es trompé de ligne quand t'as vu la faille
ça? Mais non, j'ai
même pas vu. Oui, ça sent
assez. C'est plutôt moi qui ai un gros doigt, si tu veux.
Jamais je fais ça parce que je suis pur.
Qui chante ça? Ambiance. Il y a forcément ennemi dans le titre.
Lara Fabian, une chanteuse à voix. Leïla Morgane. Comment elle s'appelle?
Morgane.
Morgane.
Oui, c'est Morgane. Mais non. Bah ouais, bah oui, tu dis surtout, ça se suffit pas.
Ça va marcher
sous lui.
Admis ou ennemi.
Je comprends. Je comprends une fois. Je mets une option. Je fais un petit tour, j'en reviens.
On est là.
Ah, ouais, ouais, ça, vous êtes là. Ouais. Qui chante ça?
Jonas?
Non.
Dire Straits?
C'est Daniel, hein, ton
frère. Ouais.
Daniel, Dire Straits?
Il y a forcément une identité. Avec la voix, vous allez reconnaître.
Daniel?
Oui.
La voix?
Leïla, l'Erita Mitsuko.
Oui. Pardon Daniel, tu as dit quoi? Daniel va la voix. Mes nuits de mébrouillard. Un point pour Tanguy, un pour Morgane, deux pour Leïla. Qui chante ça? Là aussi, à la voix, vous allez tout de suite reconnaître. Le titre c'est Je te souhaite.
Morgane.
À mon pire ennemi.
Quel? Je te
oui. Ennemi. C'est sur le titre que t'as trouvé.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais. J'aurais pas reconnu la musique.
La formule est dingue.
Oui, mais c'est pour ça.
Je te souhaite à mon pire ennemi. Je te souhaite à mon pire ennemi. Ça va, non? Je te souhaite
à mon pire ennemi. Il peut-être pas bien à ce moment-là. Il nous appartient pas de juger.
Qui sommes-nous?
Voilà.
C'est pas du tout notre genre en plus de juger.
C'est ça.
Mais non. Qui chante ça?
Daniel ah, Axel oui. Bauer?
Non. Mais je comprends, il y a de la guitare. Ouais.
Ah, Tom, Johnny?
Non.
C'est pas l'Hérita encore?
Non. C'est un duo.
Ouais. Sur
ma colline. Léa.
Tom.
Daniel.
Ouais. Ouais.
Bravo. J'ai pardonné. Ça commence comme...
Quelle voix?
Ouais.
Pardon à mes ennemis Niagara. Autrement dit, pour l'instant, il y a 2 points pour Morgan, 2 pour Leïla, 1 pour Tom, 1 pour Tanguy. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise.
Mais on a regardé non, quelques mais... émissions passées en courant de fois.
Et Denis qui court, c'est une petite passion. Ah, bah,
ouais. Denis le sprinter.
Denis travaille avec nous.
Denis Bolt.
C'est passé de Denis la malice à Denis la course. C'était dingue. C'était dingue.
Le Carl Lewis du pauvre.
Attention, tout. Ah, c'est méchant. Tout se joue c'est maintenant. Ça rapporte 3 points.
Leïla Dorothée, Leïla Dorothée.
Non.
Ça ressemble.
C'est oui, genre.
Oui. Bien musclé.
C'est genre.
Bernard Vitton,
oui, Carlos. Oui, Bernard.
Il a pas dit son prénom, hein. Ah, ah mais pardon, il s'appelle pas Bernard Minet, il si, s'appelle Daniel.
Mon vrai nom, c'est Bernard Minet.
Faut qu'il te dise la vérité.
Mais Minet, ça lui irait bien.
Écoutez, écoutez.
Ouais, je vous ai mis sur la piste quand même. Ouais.
Je crois que c'est son premier passage
dans la BO.
Ouais, je crois, ouais.
Et le dernier peut-être?
Non!
Bernard! Ouais, ça dépend!
C'est bien,
écoute,
ça, hein, bonne humeur.
Ça dépend! Les ennemis de la Terre! Oh, bien joué, parfait. Daniel Borin remporte Blind
Terminé.
Et merci d'accueillir Alma Jodorowsky et Stéphane Stracker!
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Soyez les bienvenus, nous allons parler de l'ennemi que vous avez réalisé, Stéphane Stracker. Bonjour Alma.
Bonjour.
C'est votre première à tous les deux, je crois, dans cette émission.
Moi, j'étais venue avec mon groupe Burning Peacocks il y a quelques années.
Mais oui,
années. En live.
Mais
en live, exactement.
Oui. Mais oui, ouais, mon Dieu.
Ouais. Quelle mémoire, Nagui.
Il décline.
Et c'est pas les 5 fois rien que l'année dernière.
Alors, le Covid fait du mal. Voilà.
En tout cas, bienvenue.
Il semble il y a 5 ans ou 6 ans.
Ouais, hein, je pense qu'il y a peut-être 5 ans, ouais.
Ouais,
ouais, ouais,
autorise-moi.
Ouais.
Ouais. J'ai vu 2-3 groupes passer.
On va aller à la FM, on va faire 2-3 tests, Nagui.
Dans ma live. Emmanuel Berco, Jérémy Régnier, Alma Jodorowsky, donc Félix Marido, Zachary Chassorio. C'est votre troupe, j'ai envie de dire, si on parle un peu théâtre, que vous avez réuni Stéphane Stracker. Alors, pardon Alma pour l'impolitesse, mais on va déjà commencer par Stéphane et savoir à quel point ce fait divers ou ce fait politique important a marqué la Belgique, pas toute la Belgique visiblement, puisque Fanny Ruet est passée au travers de cette information.
C'était en quelle année? C'était en quelle
ça
année?
Remonte à quand? Oui,
ouais. Ça doit dater de 2017, je dirais.
Bon, bah
elle était mineure, elle était mineure, c'est vrai qu'elle était mineure.
2017
en 2017, oui,
on était défoncé surtout
en 2017.
Ouais, en 2015 alors, et 2020, j'étais
en France. Donc en 2017, le Premier ministre Westphaler,
non, il n'est pas Premier ministre, ah, il ne l'a jamais été.
Il est dans le film Premier ministre.
Non, il n'est pas Premier ministre non plus dans le film.
Il est ministre.
T'as un Nagui
qui est député. Il est député, mais en fait, on dit qu'il est possiblement un futur Premier
c'est ça,
ministre.
C'est potentiel.
Une sorte d'enfant terrible de la politique, une sorte de golden boy qui pourrait y arriver.
D'accord.
On en est là. Mais ça, c'est vraiment la fiction, parce que fondamentalement, je n'ai gardé que ce qui m'intéressait dans l'histoire vraie.
Et quoi en l'occurrence?
Ah, ben ce qui m'intéressait, c'était le fait que, à partir du moment où on a appris qu'on a retrouvé une femme morte dans une chambre d'hôtel qui a peut-être été tuée par son mari, homme politique, tout le monde avait un avis dessus extrêmement tranché. Je trouvais très intéressant de se dire, alors que personne n'était présent, pourquoi certaines personnes sont persuadées qu'il est coupable, d'autres qu'il est innocent. Et je dirais que ce que chacun disait, on disait plus sur lui-même que sur cette affaire. C'est finalement
cette phrase, cette phrase est dite sur l'intime, l'intime conviction. Oui, il y a une scène formidable dans la prison, oui, dans la cour de la prison, oui, où
il est génial,
un vieux, ouais, c'est ça.
C'est très volubile.
C'est le vieux détenu qui est là, qui est un peu le taulier, quoi,
qui est un peu inquiétant.
Ouais, c'est ça. Qui décide de tout pour tout le monde.
Tu ne te lèves pas quand je te parle.
C'est ça. Et qui parle de l'intime conviction, et il dit l'intime conviction, ça en dit beaucoup plus sur celui qui l'exprime que sur celui qui l'a subi, entre guillemets.
C'est gentil de citer aussi bien un dialogue que j'ai écrit, et que j'ai écrit en pensant à cet acteur-là.
Qui s'appelle
Qui
s'appelle?
Il s'appelle Sam Louick, mais c'est une superstar en Flandre, et relativement peu connu en France, même s'il a quand même déjà tourné dans certains films, notamment été au Festival de Cannes, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est le deuxième film que je fais avec lui, et c'est le seul acteur vraiment pour lequel j'avais écrit en pensant à lui. Détail incroyable, il dit à un moment donné, oui, je suis ici comme un pauvre con, mais je parle cette langue, et j'ai appris après qu'il parle réellement cette langue.
Donc, alors que vous l'aviez écrit et sans savoir qu'il parlait cette langue. Alma.
Et vous avez vérifié qu'il parlait cette langue?
Je ne crois pas, parce que dans la mesure où il a vécu au Portugal, enfin il a vécu dans plein... Oui, je sais que c'est vrai.
Alma Jodorowsky, vous vous retrouvez donc dans ce film, c'est vous l'épouse en question. Alors, c'est vrai que j'imagine que quand on vous dit, voilà, on va démarrer un film, vous mourrez dans les 5 premières minutes, vous dites, voilà, le rôle, il va être très, 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 très petit, mais il y a beaucoup de flashbacks.
Un peu plus que 5 minutes, quand même.
Ouais, mais assez rapidement, on va dire.
C'est
vrai. Mais il y a beaucoup de flashbacks qui arrivent ensuite pour expliquer ce qui pourrait être, d'ailleurs, une histoire d'amour incroyable aussi.
Ouais, bah moi c'est ça qui m'a tout de suite plu, c'est la construction aussi du film, du scénario, cette manière de rentrer dans les méandres de la pensée du personnage
des deux d'ailleurs, hein, de la femme comme de l'homme, c'est ça, on sait pas trop.
Oui, on sait pas trop où est-ce qu'on se place, si on est dans la réalité, dans le rêve, dans le cauchemar en l'occurrence. Donc tout ça c'était des aspects que je trouvais hyper singuliers et hyper intéressants dans le scénario.
Le film ouvre sur une sorte de plan séquence, vous êtes face caméra.
Ça vaut le coup de mourir au bout de 5-15 minutes pour un plan comme ça d'ouverture, je trouve. Franchement, non, mais le plan, il est superbe. Il est superbe.
Économiquement, c'est bien aussi.
Et vous chantez a cappella.
Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard.
Vous connaissiez cette chanson avant que Stéphane vous demande de la chanter?
Je la connaissais pas, il m'avait demandé de la préparer pour les essais, donc c'était vraiment une idée qu'il avait depuis le début. Et il ne savait pas, quand on s'est rencontrés, que je chantais également. Donc c'était un joli hasard.
Il savait pas que vous étiez chanteuse?
Non. Non, non.
Bah, Stéphane, il faut bosser un peu.
Écoutez, qui ose se remettre en question,
franchement. Il a peur de rien.
Pour le coup, j'avais en fait demandé à toutes les actrices d'apprendre cette chanson, qui est pour moi la plus belle chanson d'amour de tous les temps. C'est une chanson qui m'émeut, mais au plus profond.
On l'écoute tranquillement.
Un jour, tu verras. On se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les vues nous irons.
Qui est l'interprète?
Mouloudji. Mais vous ne. D'ailleurs, ce qui est fort dans cette chanson, c'est qu'on ne sait pas si c'est quelqu'un qui parle à une femme rêvée qu'il ne connaît pas en disant un jour je rencontrerai l'amour, ou s'il parle à une femme qu'il aime déjà en disant
déjà
tu verras,
fait,
on se retrouvera.
Non, mais
dans les hasards de la vie. Et c'est cette scène-là d'ailleurs que vous recréez dans la rencontre entre Jérémy Régnier et Alma Jodorowsky, comme une scène de drague, entre guillemets, à la terrasse d'un café.
Ce qui était beau, c'est que j'avais demandé donc que les comédiennes apprennent cette chanson, mais Alma, comme actrice, m'avait totalement convaincu. J'avais oublié de lui demander de chanter la chanson, et c'est le miracle. Le chef opérateur du film était là, parce que le personnage d'Alma est le dernier personnage qu'on a trouvé, et il me dit, mais il faut demander la chanson. J'ai dit, ah oui. Et elle a commencé à interpréter la chanson, et là c'était absolument bouleversant. C'est un moment que j'oublierai jamais dans ma vie. Il faut savoir que Alma, en plus du talent qui est le sien, de sa beauté, c'est vraiment une artiste, en plus d'être une actrice.
La nuance étant pour vous?
à la nuance étant que c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui a un véritable point de vue sur les choses, qui porte un regard, absolument.
Donc en plus, elle est réalisatrice. Elle propose.
Ah oui, oui, et bien entendu que oui. Et là, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai toujours à mes acteurs, vous pouvez vous permettre vraiment d'aller le plus loin possible, mais si jamais les choses qui ne me conviennent pas, il faut revenir au texte. Donc il y a une sorte d'exigence par rapport à ça, c'est qu'ils connaissent le texte que j'ai écrit, mais il y a la possibilité de le trahir si nécessaire, ce qu'elle a fait, ce que Jérémy a fait
donc
aussi.
Donc une liberté totale, mais il y a des fondamentaux, c'est oui. Le scénar.
Oui.
Qui peut évoluer d'ailleurs pendant le tournage.
Ah, mais il doit. Ah, moi, je pense vraiment qu'il faut trahir le scénariste pendant qu'on tourne. Le scénariste, c'est moi. Mais on ne trahit pas le réalisateur, c'est moi aussi. Mais indépendamment. Non, mais.
Vous êtes compliqué comme garçon.
Ouais, c'est ça. Et puis on ne trahit pas Stéphane, c'est moi aussi. Donc ça fait trois couches.
Quand même. Non, mais l'idée, c'est qu'il faut considérer que le moment du tournage est un instant de création aussi.
Oui, mais là, on est dans un thriller, on est dans une enquête. Il
faut être précis.
Exactement. On est dans le moindre détail. Il y a une forme d'enquête. C'est à la fois un drame psychologique et une intrigue. On est nous-mêmes, d'ailleurs, ballottés en se demandant. De quel côté on serait si on avait une opinion.
Mais si c'est vraiment arrivé, on se le demande.
À donner.
On peut se le demander.
Ouais.
On peut se le demander, mais
c'est vrai. Toi, t'as pas été ballotté. Moi, j'étais ballotté. À un moment donné, je me suis dit, il est coupable, il est pas coupable. Je suis vraiment passé d'un stade à l'autre.
Et pour vous ?
Ah non, pour moi, il est complètement coupable.
C'est génial, j'adore. En
pour fait, moi aussi, bizarrement.
Je sais. Ah
mais parce que moi, c'est le personnage féminin qui a été mon guide. Et puis, il y a plein de trucs un peu incohérents, je trouve, dans le personnage de cet homme qui est un grand parleur, un grand humaniste. Et justement, parce qu'il est tellement humaniste, qu'il a l'air d'être tellement moderne dans ses idées, qu'il est pour moi le coupable idéal.
Comme Nagui.
Mais c'est
ce que dit le personnage de Félix dans La Prison aussi. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là d'un mec qui est en prison et qui lui dit bah, en fait, tu n'as pas la gueule de l'emploi,
c'est
tu ne seras jamais.
C'est pour ça peut-être, peut-être qu'il sympathise aussi avec lui. Mais on va continuer de s'en disséquer le film et analyser. Mais
le mec est fou, il la rencontre et il dit vous êtes ma femme, alors c'est fantastique et tout, mais moi ça me fait flipper.
Bien sûr, c'est un bien entendu.
Mais le mec se dit on ne se connaît pas, on va se marier.
C'est pas de la drague. Il arrive et il est en boisson.
C'est une révélation.
Parce qu'il lui dit c'est une épiphanie qu'il a eue, c'est on va être ensemble.
Mais c'est sa réaction à elle aussi qu'il accepte, je trouve, qu'il accepte ce truc-là. Bon, il y a un moment où elle est interloquée par le truc, mais le fait qu'elle y aille aussi, je trouve que ça raconte aussi beaucoup de son personnage à elle, qui en fait a probablement aussi une vision de l'amour assez particulière.
Enfin, mais quand il lui dit,
on est dans le rapport de force, d'ailleurs, en permanence.
Au départ, elle en rit, on peut se demander si ils n'ont pas appris à se connaître, qu'elle s'est dit finalement, oui, je vais rester avec
lui. Non, mais ils se connaissent parce que.
Elle fait de la radio, et lui est un homme politique, donc elle lui dit, je sais qui vous êtes. Mais ce qui me touche vraiment, c'est que moi, le but qu'on avait vraiment avec toute l'équipe, c'était de faire un film qui laisse le spectateur intelligent et libre. Je crois très fort en cette histoire de point de vue. Je pense qu'un artiste doit porter un point de vue, donc il y a un point de vue très fort dans l'ennemi, mais le jugement moral appartient au spectateur. Et d'ailleurs, quand il y a à l'étranger, notamment à Londres, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé aux gens, voilà, le personnage de Louis Durieux, pensez-vous qu'il est coupable, innocent, vous ne savez pas. Il y avait, je sais pas combien, mais les proportions, c'était 5% pense qu'il est coupable, 5% qu'il est innocent, et l'écrasante majorité ne le sait pas. Mais je pense
vous
même que...
Vous faites votre Robert Hossein, vous faites voter des gens à la fin.
Oui, non, on l'a fait déjà. Mais je trouve quand même que cette notion de doute, le cinéma est suffisamment articulé comme expression artistique pour laisser la part au doute. Les réseaux sociaux, c'est le contraire. C'est hashtag coupable, hashtag innocent. Il n'y a rien d'autre. Nous, quand on fait des films, si on n'a pas le droit, justement, d'introduire et de respecter surtout cette notion de doute, cette notion en fait, d'articulation, ben c'est dommage, parce que le cinéma doit le faire.
On va continuer évidemment de parler de l'ennemi jusqu'à midi et demi avec Alma Jodorowsky et Stéphane Stricker, qui en est le réalisateur. On a été pris. Mais la preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a un débat, il y a des argumentations. On a été totalement pris par ce thriller. On est évidemment ravis d'en parler avec vous. Nous sommes ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Parce que l'ennemi, c'est vraiment ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Voici Morgane Cadignan.
Alma, Stéphane, je vous aime pas, c'est contractuel hein, et ça fera pas de mal. En plus, le film est bien, c'est un thriller haletant, comme on dit sur les affiches de tous les thrillers de l'univers finalement. Je crois qu'il y a un seul adjectif qui va avec thriller, c'est haletant. Donc j'ai haleté joyeusement pendant toute la durée du film et à l'instar de Daniel le vendredi soir en boîte à Agde, je me suis laissé prendre même si le film, contrairement à Daniel le vendredi soir à Agde, c'est vrai que c'est pas super gay. Alors l'ennemi, on l'a dit, c'est l'histoire...
L'ennemi, c'est l'histoire bien joyeuse et bien solaire d'un célèbre homme politique accusé d'avoir tué son épouse retrouvée morte une nuit dans leur chambre d'hôtel. Écoutez, en plein mois de janvier, bah moi je trouve que ça nous met du baume au cœur. Voilà. J'ai commencé à regarder la bande-annonce. J'ai vu une plage, un hôtel de luxe. Je me suis dit, ouh, ça va me rappeler les vacances que je ferai quand avec Fanny on aura enfin cambriolé Nagui. On a failli, hein. On avait tout prévu, c'était bien parti en arrivant devant la porte, mais Fanny, elle a sonné, quoi. Bah, enfin. Du coup, la femme de Nagui, elle nous a ouvert, elle nous a proposé de rester dîner, puis bon, bah voilà, quoi, tu vois. On aurait pu partir avec un écran plat, mais on est rentré avec 25 manières de revisiter la patate douce, et honnêtement, je pense qu'au fond, on a gagné au change.
Tu vois?
Donc là.
Elle sait faire.
Là, donc, film, ça part bien. Du sable fin, un hôtel, de l'amour, de la musique, et il a du sang sur sa manche, putain. Pourquoi vous gâchez les vacances, Stéphane? Et pourquoi la femme retrouvée assassinée, elle est toujours magnifique et mystérieuse? Ça me rend dingue. Pourquoi c'est jamais Catherine Jacob qui tournoie dans des chemises blanches oversize à longueur de flashback sur la plage? Après, franchement, le décor du film, il est fou. Moi, j'ai une petite passion hôtel. Et franchement, l'hôtel dans lequel se passe le film. Mais moi, si je me paie une nuit là-bas, bah, le minimum, c'est d'être trouvée morte à la fin, en fait. Non, vraiment, les amis, en ce moment, je suis en tournée. Parfois, les hôtels, tu te dis, mais le carrelage, ok, mais pourquoi au plafond? Sans rire. Honnêtement, il y a des ibis en France, messieurs, dames. Tu sais pas si t'es là pour dormir ou te faire autopsier. Ça coûte quand même pas grand chose de foutre une bougie à la figue et un dessus de lit, au moins pour tenir chaud aux punaises, quoi. Donc, me dire qu'il y a des chambres à 1500 euros la night où les gens prennent même pas de petit déjeuner, ils s'en vont comme ça sans voler de confiotes, à ce prix-là, tu me sors en brancard, mais jamais je pars de moi-même. Jamais je décolle sans enrouler un mini pain en raisin dans un Kleenex. Il y a des gens, non mais parce que là, on est en temps de paix. Donc, c'est pas grave. Mais le temps du retour, s'il y a un putsch, on sera bien content que j'ai ma petite viennoiserie pour tenir le temps. Je rappelle qu'Anne Hidalgo est encore maire de Paris, hein, donc le temps de traverser la porte de Clignancourt, l'URSS a le temps de s'organiser. Bref, tout ça pour dire que moi, une nuit au prix d'un SMIC, mais minimum, je gifle la maîtresse de mon mari en l'appelant petite catin, et après elle m'ouvre l'arcade sur le lavabo. Après, dans mon film, j'accuse une femme de chambre jouée par Leïla de m'avoir volé mes bijoux, puis elle me tue et elle prend ma place pour devenir ministre de l'agriculture. Voilà. Ah bah, tu voulais du transfuge de classe, ma grande, moi je t'en donne. En attendant de jouer dans mon film, Alma, vous êtes une touche à tout, musicienne, réalisatrice, comédienne, femme retrouvée bien endormie dans des chambres d'hôtel, et tout ça avec un an de moins que moi. Après, si les gens veulent réussir leur vie, ça les regarde, moi je suis pas là pour juger.
Merci.
Bravo, Morgane, tu es en tournée dans toute la France, et ce soir, on te retrouve à Bazancourt.
Exactement.
Dans la Marne. Oh,
exactement.
Avec un carrelage au
plafond. J'ai hâte de voir l'hôtel.
Est-ce que ce sera
Stéphane Strecker réalise le film L'ennemi où joue Jérémy Régnier et Alma Jodorowsky dans les rôles principaux. Alma que nous avions déjà reçu évidemment dans la bande originale avec son groupe Burning Beacon. On a retrouvé la date, hein, c'était en 1927. Hein,
c'est pour ça
que j'avais oublié.
Jamais battu, en fait.
L'ennemi, c'est votre quatrième long métrage après Noce, hein, qui avait été
un succès critique, marquant, remarqué.
Primé aussi. Vous avez d'ailleurs des acteurs fétiches qui reviennent. Je crois que c'est le cas de Zachary.
Oui.
Chasseurio qui était dans Noce.
Il était dans Noce, il était dans ce film. Si Sam Louis qu'on a cité était dans Le Monde nous appartient. Et j'adorerais refaire des films avec
Sam Louvic.
Avec Alma et Jérémy, parce que c'était une rencontre absolument phénoménale pour moi. J'avais vraiment l'impression qu'on faisait le film ensemble, qu'on faisait vraiment le film à trois. Il y avait quelque chose de très organique. Enfin, il y avait. C'est génial quand on écrit une histoire qui part de rien, de constater que des êtres humains vraiment se liguent avec vous pour arriver à le mener plus loin.
Donc en fait, quand vous dites une histoire qui part de rien, non, c'est une histoire qui part de faits réels.
Quelque chose, voilà. Pas grand chose, parce que j'ai gardé quasiment rien.
Et c'est ce que j'allais dire. Et tous les dialogues, les didascalies, les flashbacks et compagnie, ça c'est que de la création, mais évidemment. C'est votre imaginaire en fonction du fait divers, c'est
ça? Oui, en fait, je veux même vous dire, quand vous m'avez posé la question sur l'année, en fait, j'en sais même rien. Parce que
je crois que c'est 2016.
C'était 2016, c'est possible. Ouais. Okay. Non, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que le même jour, j'ai rencontré un être humain que j'admire et que j'aime, qui m'a fait toute une démonstration en me disant voilà pourquoi il est innocent. Et l'après-midi même, quelqu'un m'a démontré l'inverse, et quelqu'un que je respecte tout autant. Et je me suis rendu compte, justement, c'est comme ça que c'est parti.
Qui avait un sujet.
Oui, qui avait un sujet, parce que s'en disait plus sur eux, c'est extrêmement intéressant. On vient de le vivre ici autour de la table. Ouais. Mais que moi, je pense que tout le monde a raison, parce qu'on a raison en fonction de ce qu'on vit, de voilà. Mais allons un peu plus loin. Est-ce que vous allez dire à propos de n'importe qui ici, ça en dira toujours plus sur vous que sur la personne.
Je vais simplement préciser en termes de date 2016. En fait, c'est le procès, donc c'est le moment où tout le monde en parle, où tout le monde a une idée.
C'est juste, j'ai dit 2017, mais c'est 2016.
Et le meurtre, c'est un peu moins d'une dizaine d'années, ouais. C'est en 2013.
C'est un film aussi donc sur la Belgique et sur. Alors, est-ce que c'est vrai dans le fait divers que l'homme incriminé ne parlait pas flamand, parce que il y a une histoire importante autour de la langue en fait. C'est essentiel.
Mais c'est totalement désolé. Mais c'est moi, j'estime que le vrai sujet, c'est la Belgique. Imaginez un pays dans lequel un premier ministre, mais c'est déjà arrivé, un premier ministre élu ne parle pas le flamand. C'est donc il ne parle pas la langue pratiquée par la majorité.
Il est premier ministre ou il n'est pas premier ministre? Quand je dis premier ministre,
c'est
mon
anglais.
Imaginez.
Je parlais en général.
Oui,
voilà,
je parlais en général, mais plus
donc
précisément.
Reprenons cette généralité.
Oui, et donc reposant sur cette généralité, c'est quand même très intéressant de mettre en scène quelqu'un qui est une célébrité, mais qui, à l'endroit où ça se passe, personne ne sait qui il est.
C'est ça.
À cause de ça, il ne bénéficie pas de son immunité parlementaire, qui lui aurait, et ça c'est vrai dans l'histoire vraie, permis de rentrer chez lui. Ouais. Il est quand même arrêté.
Et ça, c'est un élément clé utilisé par Emmanuel Berco, son avocate, dans le film, en disant, si c'était prémédité, s'il était vraiment assassin, il aurait dit, je suis ministre, donc immunité.
Voilà. Pas ministre, il est député.
Et député. Ouais. Il est député. Et donc, il suit très bien le public.
Ah oui, voilà.
Nagui,
ça démange.
Finissez, non.
C'est vous, allez-y.
Non, je vous encourage. Au-delà de ça, dans la vraie vie, il y a eu, mais vous n'allez pas me croire, mais il faut me croire, un premier ministre belge flamand à qui on a demandé s'il connaissait l'hymne belge. Il a commencé à chantonner la Marseillaise.
La Marseillaise.
Le pire, c'est qu'on a dit que c'était avec de l'humour. C'est pas vrai. Il s'est vraiment trompé. Dans tous les pays du monde, il aurait dû démissionner. En Belgique, on a dû. C'est folklorique.
Et est-ce que c'est vrai que dans l'affaire, il y a eu un problème de traduction?
Oui,
parce
c'est vrai
que
aussi.
Il y a un des ressorts de ce thriller, c'est aussi ça.
Non,
mais c'était un ressort important. Il y a une erreur de
traduction.
Oui,
justement, il ne faut pas le révéler. On ne le révèle pas.
On parle d'un problème de traduction.
Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps qu'en fait, on ferait mieux de faire les dossiers de l'écran à propos de ce film, parce que quand on en parle, on risque de spoiler un petit peu. En même temps, on est obligé d'en parler aussi.
Le film s'appelle L'ennemi allemand Jodorowsky. Pour vous, qui est l'ennemi de qui dans le film? Ou est-ce que chacun est son propre ennemi, parce qu'ils sont tous les deux quand même torturés?
Oui, bah encore une fois, c'est un peu dur de répondre sans spoiler. Je pense que ça rejoint cette question du point de vue de chacun, de chaque spectateur sur l'histoire. Après, il y avait cette notion d'ennemi intime et du fait qu'en effet, c'est des personnages qui sont tous les deux très, très autodestructeurs et qu'ils se sont mal trouvés parce qu'ils s'entretiennent dans cette chose-là. Après, on parle quand même d'un cas où il y a un meurtre, donc c'est un peu compliqué de tout mettre sur son propre ennemi parce qu'a priori, il y a quand même quelque chose qui s'est passé.
Vous dites qu'il y a un meurtre. Pas suicide.
Ouais, pardon, putain.
Non,
mais c'est sa lecture, Moi, je suis comme vous.
C'est sa lecture.
C'est un meurtre, mais en effet, les autres, ça peut être un suicide.
Non, ouais, non, mais de toute façon, c'est vrai que le film ne donne pas vraiment de réponse sur ça, mais en tout cas, il y a
des potentiellement. Et qui serions-nous pour l'apporter, d'ailleurs? C'est que je pense que c'est toujours extrêmement réducteur. On en est maintenant, je dis, dans cette polarisation obsessionnelle, quoi. C'est donc, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre, est-ce que c'est pour lui ou contre lui? Je pense même que si j'avais fait un film pour lui, je pense que ça aurait été peu intéressant. Si j'avais fait un film contre lui, ça aurait été relativement peu intéressant à cause de ça. C'est justement c'est.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît en tant que réalisateur de partir d'un fait divers, justement, qui prêtait à débat et de présenter? Parce que pour écrire tout ce qu'il y a autour, les dialogues, il faut aussi avoir un point de vue. Il faut avoir son intime conviction.
Oui,
comme dit votre personnage.
Par rapport à la culpabilité du personnage que j'ai écrit, personnellement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si Louis Durieux.
Donc vous avez écrit tout le film sans savoir quelle était la vérité.
Oui, et je vais même vous dire un truc bizarre mais qui est sincère, ça ne m'intéressait pas tellement de le savoir.
Qu'est-ce qui vous intéressait alors?
Tout le reste.
Les méandres du couple.
Tout le reste, oui, évidemment. On est quand même tous d'accord pour dire que je défonce une porte ouverte, l'amour est la plus belle chose au monde, mais ça mène à des horreurs drôles. Et mais ça mène aussi à des horreurs.
Joke.
Non, mais j'ai pas voulu, c'était pas l'esprit drôle. C'était pas l'esprit, mais c'était drôle.
Merci.
Faut profiter parce que c'est pas toujours le cas.
C'est pas pour moi. Non, mais ça mène aussi à des horreurs. Et pour rebondir sur ce que disait Alma, cette notion d'ennemi, malgré vos efforts, Nagui, le plus grand ennemi que vous rencontrez sera jamais que vous-même et aussi le plus grand ami. C'est cette idée-là. La seule chose que je pourrais dire par rapport à la vraie histoire, vraiment la seule, c'est que si l'alcool n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu le drame.
Il y a une scène au début, une scène d'amour entre Jérémy Régnier et Alma Jodorowsky. Là aussi, il faut l'écrire, entre guillemets, parce que la manière dont le couple fait l'amour dit beaucoup dans la psychologie.
Oui,
aussi,
non, mais j'avais écrit ils baisent comme des chiens. J'avais pas dit ils font l'amour. J'avais écrit ils baisent comme des chiens.
C'est d'ailleurs souvent le seul intérêt, je trouve, des scènes d'amour dans les films, c'est de comprendre la relation du couple. Oui. Au-delà de. Alors pour certains, c'est de voir des actrices ou des acteurs nus, mais je trouve que ça renseigne vraiment sur ça.
Ah, bravo. Ouais. Et le truc, c'est que.
Moi, j'ai bravo.
C'est le running gag que j'ai pas.
Mais c'est un sujet qu'elle maîtrise en même temps.
Il est à quelle heure le conseil de classe?
cette scène est importante.
Et elle est en un plan fixe qui ne libère pas. En fait, il n'y a pas d'érotisation de la situation. Ouais. Parce que, justement, quand la plupart du temps, on met la caméra très près, etc., en fait, ça protège, bizarrement. Plus on est près, moins on voit. Et bien ici, il y avait vraiment cette volonté. En plus, on est en légère plongée, il y a quelque chose de dur par rapport à ça. Et il est dit plus tard par le personnage de Sam Lewick que quand les couples vont vraiment mal, parfois quand ils se disputent, c'est pour encore mieux baiser après. Mmh. Et ça, c'est une façon de l'annoncer dans la façon dont c'est mis. Ça, c'est au tout début du film. Mmh.
L'ennemi, c'est au cinéma mercredi avec Alma Jodorowsky et Jérémy Régnier, Emmanuel Berco également, Félix Marito, Zachary Chassoriou, Sam Lewick, Peter Van Den Begin, Bruno Van Den Broeke et Jeroen Perceval, entre autres. Voici Fanny Rué, restons en Belgique.
Coucou les pipous. Bon, ma tournée a commencé. Et il y a quelques temps, j'ai joué dans un casino à Bâle, en Suisse alémanique, parce que j'ai percé. Mais ça m'a permis de faire le truc le plus cool de ma vie, puisque donc je suis sortie de l'aéroport en Suisse germanophone, je suis montée dans un taxi, et vu que je parle pas allemand, je suis rentrée dans la voiture et j'ai dit « Take me to the casino ».
Oh yeah.
Sauf que le chauffeur, il parlait pas anglais. Donc il m'a répondu genre « Fief, 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 fief ». Et puis...
Tu fais bien l'allemand.
Merci, donc moi j'ai répondu « Ya ». Et jusqu'à la fin du trajet, j'ai pas su si on s'était compris. Donc, honnêtement, je sais pas. Je me disais, mais putain, imagine, il me kidnappe. Ça va faire une trop bonne chronique.
Bah non, et, si tu reviens plus.
Non, mais j'aurais une putain d'histoire. Et depuis que je bosse ici, honnêtement, j'ai plus aucune notion du danger. Maintenant, ma vie, c'est la preuve de l'échec du darwinisme. Mais, ouais. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, on parle du film L'Ennemi. Donc, j'ai réfléchi à la notion d'ennemi et j'ai réalisé qu'une fois adulte, dans nos vies privées, on n'a plus vraiment un ennemi comme quand on était enfant. Genre, on a des gens qu'on n'aime pas. Genre, moi, très régulièrement, je vais sur le compte Instagram de gens que je détestais au collège juste pour vérifier qu'aujourd'hui, ma vie est mieux que la leur. Et si la leur est mieux, je les bloque parce que je veux pas qu'ils aient la satisfaction de savoir qu'ils sont mieux. Puis de toute façon, c'est peut-être pas moi qui ai le mieux tourné, mais selon mon ex, c'est moi qui ai le plus tourné.
Classe.
Mais donc même eux, on s'en fout un peu et tout. On n'a plus d'ennemis comme quand on était gosse et tout, parce que quand on était petit, on n'avait pas besoin de raison pour ressentir les choses. On pouvait être amoureux d'une fille juste parce qu'elle dessine bien.
Ouais.
On était intense de ouf et c'était pareil pour les ennemis. Du jour au lendemain, on pouvait décréter qu'on avait un némésis et de temps en temps, on se tapait sur la gueule. Et moi, quand j'étais gosse, mon ennemi, c'était la seule fille de la classe qui faisait des sports de combat et avait une piscine.
Ah ouais.
Yes, donc je prenais des grosses mandales, mais aucun bain de minuit. Je pouvais me baigner que dans mon seum. Je sais pas comment ça se passerait aujourd'hui si j'avais un ennemi, parce qu'enfin, on pouvait se taper dessus comme des gros chacals. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, un de mes rêves dans la vie, c'est de frapper quelqu'un avec une chaise. Mais je peux pas, rapport à tout ce qui est loi, et au fait que je viens de racheter des meubles. Donc je sais à quel point, en fait, c'est cher, une bonne chaise. Mais adulte, on peut pas, parce qu'on a évolué et tout. Et aujourd'hui, si je voulais détruire quelqu'un, je pense que je le ferais de l'intérieur. Genre, je trouve le nom de son psy, je prends rendez-vous, et puis je deviens sa patiente préférée. C'est comme ça qu'on détruit un trentenaire. Ça ou alors on cache ses bougies parfumées. Mais surtout, la trentaine, c'est l'âge où tu réalises que t'as plus vraiment d'ennemis parce que la seule personne qui gâche ta vie, c'est toi. Concrètement, depuis le début, le problème, il était en toi. C'est comme quand tu cherches ton téléphone alors qu'il était dans ta poche. Tu le trouves et t'es là, ah oh, bah je suis con. Bah oui, bah c'est ça le souci, en fait. Et c'est sacrément dur à gérer parce que quand tu deviens à la fois celui qui te tape sur les doigts et celui qui te met le pansement. T'es à la fois le héros et l'ennemi dans ton histoire. Genre, tu penses ta vie c'est Sex and the City, en vrai c'est Fight Club. Donc c'est pour ça que je peux pas taper mon ennemi avec une chaise parce que c'est moi. Donc faudrait que je lance une chaise très très haut. J'attends qu'elle tombe. Et c'est con. Honnêtement, c'est vraiment très con. Mais d'un côté, je me dis honnêtement, si je vais aux urgences, bah, ça me ferait une super chronique.
Merci.
Et Fanny, on te retrouve en tournée partout en France. Ce mois-ci, tu seras à Nice, Toulon, Aix-en-Provence, Montpellier, Mâcon.
L'ennemi, le nouveau film de Stéphane Stryker sort ce mercredi au cinéma. Jérémy Régnier est l'interprète à vos côtés, Alma, l'interprète principale de ce film. Je rappelle que Jérémy avait prévu de venir avec nous, mais endeuillé comme nous tous et comme toute la famille du cinéma par le décès brusque de Gaspard Ulliel, frappé en pleine jeunesse et en plein talent. Nous avons tenu à lui rendre un hommage à notre façon dans cette bande original, en réécoutant justement les musiques qu'il aimait, qu'il écoutait, en retraçant quelques moments de sa vie illustrés en musique. Gaspard Ulliel était régulièrement venu dans cette émission, on a toujours gardé un tendre et un doux souvenir, et évidemment nos pensées vont à toute sa famille et ses amis, et la grande famille du cinéma. La bande originale de Gaspard Ulliel, on va faire un bond quand même dans le passé, pas si loin, pas aussi loin que la belle époque. Nous allons partir en 2001-2002. Vous écoutez Dr. Dre. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Bon, là, c'est un morceau avec Snoop Dogg, j'espère que ça, je ne me suis pas trop trompé.
Non, non, mais moi, de toute façon, c'est tout cet album qui a été pour moi très important. C'est-à-dire que c'est un hip-hop qui devient très, très musical, mélodique. C'est, même, je crois qu'ils ont fait une version où il n'y a même plus Dr. Dre qui pose le texte dessus.
Oui, puis il y a un côté enivrant avec ce gimmick-là.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, j'étais partagé entre écouter du hip-hop comme mes camarades de classe et en même temps, j'écoutais beaucoup de jazz, qui paraît quand même assez antinomique, non, mais par rapport à l'âge que j'avais, c'était assez surprenant, enfin en tout cas, comparé à mes camarades de classe, c'était assez étonnant. Et je sais pas d'où ça m'est venu. J'ai eu quelques années dans ma vie où je me suis mis à écouter quasiment exclusivement que du jazz, et j'ai très rapidement dérivé vers ce qu'on appelle le jazz rock, jazz fusion, et à tel point que je n'écoutais presque jamais de rock ou de choses comme ça. Et à un moment, j'ai eu un constat comme ça, je me suis dit, mais c'est très bizarre, pourquoi et je me suis ouvert à plein d'autres choses, mais à un moment, j'étais vraiment
focalisé, là-dessus. Quoi. Ouais.
Le bac en poche, vous êtes inscrit en fac de cinéma, vous aviez le but d'être plutôt metteur en scène, réalisateur que comédien.
Oui, ben, je dis souvent, en fait, moi, c'est vraiment le cinéma qui est venu à moi totalement par hasard, où on m'a repéré, on m'a proposé de faire des castings. Très, très rapidement, j'ai eu des petits rôles dans des téléfilms. Et je faisais ça avec beaucoup d'entrain, ça m'amusait. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé une vraie passion pour le cinéma, plus que pour le jeu pur. Donc il y avait cette volonté de participer à la création d'un film. Donc inévitablement, le poste le plus attrayant pour moi, c'était celui de metteur en scène. Oui.
Vous avez décroché un petit rôle en 2001 dans Le Pacte des Loups, aux côtés de Vincent Cassel, que vous retrouvez justement dans le Bonello d'une manière absolument...
Le Dolan, pardon.
Ouais.
Je cherchais un coup.
Non,
il était dans Yves Saint Laurent, peut-être en figuration.
Ça va.
Mais non, je suis là.
Je crois
toi.
Qu'il y a une veste Saint Laurent chez lui.
Oui, ben
je
voilà,
crois que Vincent Cassel a un costume
ça
quelque
marche,
part planqué. Non, dans le Dolan, on en a parlé.
Mais il a fait la pub d'un parfum Saint Laurent.
Oui.
C'est peut-être ça.
Merci. Jamais j'oublierai. Il y a 15 ans, Gaspard Ulliel, vous écoutiez.
Il y a deux musiques en même temps.
Et voilà.
On peut le passer à l'endroit.
Je m'en dois de respecter Brian Eno, s'il vous plaît.
C'est assez particulier comme musique.
Psychédélique.
Il faut resituer quand même Brian Eno.
Ouais, s'il te plaît.
C'est un producteur talentueux, génial, dans la mouvance aussi de Talking Heads, de David Byrne, de toutes ces musiques-là.
Cet album, c'est juste avant qu'il aille vers la musique ambiante, ouais, qui est un peu plus particulière.
Producteur de U2 aussi, sur de nombreux albums, de David Bowie, entre autres.
Et c'est un génie. Oui, c'est un grand génie. Et cet album, en fait, c'est peut-être l'album que j'ai le plus écouté dans ma vie. Et que j'ai découvert à la période que vous m'avez cité.
2003,
là.
Ouais.
Et donc voilà, j'avais envie de parler de cet album parce que c'est vrai que je l'ai découvert à ce moment-là et je m'aperçois que je le réécoute encore aujourd'hui et que je n'ai jamais cessé de l'écouter. Je l'avais.
Et quand vous l'écoutez, vous avez quelles images? Vous voyez où, comment?
Moi, je trouve que c'est une musique assez nostalgique, hein, quand même assez.
Non mais vous voyez-vous dans quelle quoi? Dans une chambre d'étudiant?
Ben non, ça me renvoie justement à ces années-là, ouais, où je commençais le cinéma. J'étais encore à la fac de cinéma. Bon, j'avais un peu triché. Et puis je commençais à avoir des rôles un peu plus important dans des longs métrages et ça me renvoie à cette époque de ma vie qui est quand même forcément assez assez jouissive et excitante, hein. C'était vraiment mes débuts, mais en même temps avec ce flottement, puisque en fait le cinéma est venu à moi totalement par hasard, et du coup il y avait, je me laissais un peu porter par les choses avec ce sentiment d'illégitimité un peu, en me demandant si c'était vraiment fait pour moi et pourquoi est-ce que j'avais été choisi. Enfin, il y a eu ce questionnement qui a,
Duré le sentiment longtemps. D'imposture, tout le monde l'a. Hein.
Oui, forcément.
Et est-ce que ça arrive vraiment par hasard?
Ah bah, moi, c'est arrivé totalement par hasard pour le coup, mais par suite à un déjeuner, une rencontre avec une amie de ma mère qui ouvrait.
Comment
une
elle
agence.
S'appelait?
Je me souviens même plus, c'est atroce. Hein.
Qui ouvrait une agence de...
Qui ouvrait une agence et elle cherchait des jeunes et elle m'a proposé de rentrer dans cette agence de comédiens et de faire des castings, et j'avais jamais imaginé faire ça. Et c'est il y a plus longtemps, ouais. Ça j'avais 12 ans. Ouais. Et en fait, j'ai eu une progression très très lente. Pour revenir en Corse. J'ai eu d'abord des petits rôles dans des unitaires à la télé, et puis des rôles plus importants toujours dans des unitaires à la télé, pour finalement avoir des petits rôles dans des longs métrages, puis ensuite des rôles plus importants.
Pardon, Céline a raison. Commencer à 12 ans à jouer la comédie ou à l'apprendre, c'est pas tardif comme démarrage.
Non, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est venu à moi totalement par hasard. J'ai plein de comédiens qui me disent qu'ils sont quasiment nés avec cette envie, cette nécessité de jouer.
Ils racontent des blagues.
Moi, à un moment, je me suis posé la question. Est-ce que, la question de la légitimité. Après, aujourd'hui, je sais que c'est un métier qui me correspond parfaitement et j'ai une réelle passion qui s'est développée au fil des années. Mais au départ, j'étais encore dans une forme de doute.
Et en 2003, c'est André Téchiné qui vous fait tourner dans Les Égarés. C'est quand même pas rien en termes de collaboration, j'imagine, pour grandir aussi dans ce métier. Vous dites que Téchiné vous a révélé, vous a fait changer sur ce tournage.
Oui, ça a été très formateur. C'est la première fois où j'étais face à un metteur en scène qui me dirigeait à ce point, en fait. Qui allait presque jusqu'à... Ça dépassait le cadre du tournage. Il se souciait de savoir ce que je faisais le soir, de si je restais bien. Parce que j'avais des moments où j'avais plusieurs jours où je ne tournais pas. Il ne voulait pas que je retourne dans ma famille. Il voulait que je reste vraiment dans une immersion totale sur l'expérience du tournage, dans le personnage. J'étais dans un hôtel... dans une chambre quasi monacale, ouais, c'est toute petite, voilà. Et j'ai découvert réellement ce que c'était que d'essayer d'incarner réellement un personnage et de m'immerger totalement dans une expérience de tournage.
Vous avez tourné aussi avec André Téchiné, on avait même parlé à ce micro.
Les années folles.
Ouais. Vous reconnaissez l'André Téchiné dont il parle ?
Oui, en tout cas, je reconnais sa passion, son amour des acteurs et le soin qu'il prend à préserver d'une façon ou d'une autre son travail et les gens qui sont dans son travail.
Son goût de la séquestration aussi.
Est-ce que ce sont vraiment les réalisateurs, les metteurs en scène les plus célèbres, les plus huppés, avec un nom qui claque comme ça, qui vous apportent quelque chose dans votre travail ou c'est parce que si on parle de Raymond Duchemol, c'est pas intéressant et c'est plus chic de parler d'André Téchiné?
Tout à fait, bon film. Ça, voilà. C'est ça, vous avez
c'est plus chic de parler de Benoît Jacquot que de...
Non, moi je crois pas quand même. Hein. Moi, j'ai beaucoup appris avec André, par exemple. J'ai beaucoup appris avec Bonello, avec Audiard, j'ai énormément appris.
Oui, mais moi, j'ai appris aussi avec des cinéastes moins
connus,
moins réputés. Ouais, je pense qu'il y a pas.
Comment ça s'engueuler
Non, je suis pas d'accord. Bah, après, il y a une raison aussi. S'ils ont ce statut-là, c'est que. Bah ouais.
Il est clivant, hein, il est clivant.
Céline, dites-le.
Non, mais moi, je trouve que c'est pas pour rien que ces gens-là sont qui ils sont et que leur nom claque.
Ah bah évidemment, je suis pas en train de dire ça. Mais après, moi, j'ai appris des choses avec des cinéastes beaucoup moins confirmés.
Oui, évidemment, évidemment. Après,
tout aussi intéressant.
En 2009-2010, Gaspard, écoutez. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream. Van Morrison, Astralwix. Alors, la musique est souvent une madeleine. On retrouve, même bien si sûr. Évidemment ce titre ne date pas de 2009-2010, mais dans cette période-là, vous entendez cette musique, vous voyez faire quoi ? Vous êtes où ?
Bah, c'est pour moi, c'est un album que j'ai écouté en boucle. Et oui, il y a un côté nostalgique. Alors, ça me ramène pas à des souvenirs précis, mais il y a quelque chose de profondément enivrant dans cette musique. Et en fait, ce qui me touche, je crois, c'est la fragilité qu'il y a dans cette voix, les erreurs. C'est quelque chose de totalement humain, la manière dont il chante. C'est-à-dire qu'il y a presque quelque chose qui dégouline comme ça par-dessus les instruments. Et voilà, en fait, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. À un moment, je me suis dit, mince, j'écoute, je connais rien au rock. Et j'ai trouvé un article, c'était dans Télérama, avec les 100 plus beaux albums de rock de tous les temps. Et ça, ça faisait partie, je crois, des 10 premiers. Et donc j'ai acheté sans trop savoir ce que c'était. Je connaissais même pas Van Morrison. Et j'ai eu un coup de foudre pour cet album que j'écoute encore aujourd'hui.
Allez, on va l'écouter encore un peu. En 2012, Gaspard Huyel, écoutez. Camille Saint-Saëns.
Rondo et Capricioso, ouais, j'adore ce morceau. Non mais c'était plus de manière plus large pour dire qu'après je suis finalement arrivé à la musique classique. Voilà, vous avez tout mon parcours musical depuis ma jeunesse. C'était un rêve de gosse que d'un jour faire du piano. Et quand j'ai emménagé dans un appartement suffisamment grand, je me suis acheté un piano. Je m'y suis mis de façon très assidue pendant un court instant. Et puis évidemment, je me suis fait rattraper par d'autres choses. Et aujourd'hui, je joue un peu moins. Mais du coup, voilà, je me suis mis à écouter beaucoup plus de classiques. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon quotidien.
J'aimerais qu'on parle de théâtre, parce que ça a été une année de théâtre, 2012. Vous décrivez le sentiment particulier d'être sur les planches, d'avoir ce lourd rideau de velours rouge qui se lève tous les soirs. Il y a un parfum particulier quand on est au théâtre.
Bien sûr. D'ailleurs, c'est un moment vraiment magique. Juste avant que le rideau se lève, on est là et on sent le public à travers le rideau. C'est assez particulier. Mais je dirais
que on sent les murmures, des vibrations,
voilà, on sent déjà la salle. Ouais. On sait à peu près comment ça va se passer.
Et vous avez peur ?
Bien sûr, mais je pense que c'est ce qu'on recherche sur scène, qu'on n'a pas forcément sur un plateau. C'est ce goût de l'adrénaline et ce rapport surtout immédiat avec le public. C'est ça qui est incroyable. Est très gratifiant. Après, moi, ce qui me perturbe à chaque fois, puisque je suis quand même assez néophyte au théâtre, j'ai pas vraiment une formation classique, c'est...
Enfin, vous avez croisé Michel Faux, à mon avis, ça doit...
Oui, mais il y a ce rapport au corps qui est très différent.
Ça, c'est un caillou dans la chaussure.
Ça marque. C'est un tel génie, ce mec.
Ouais. Et puis, Marcel Alfonso Beau aussi. Ouais.
Bien sûr.
Pour démon.
Mais oui, non, c'est très différent de l'approche qu'on peut avoir sur un plateau. C'est deux choses très, très séparées, je trouve.
Voilà, c'est la bande originale de Gaspard Huyel. C'était notre manière de vouloir évidemment lui rendre un hommage. Il était venu plusieurs fois, dont avec Céline Salette, que vous avez entendu évoquer aussi Téchiné, le cinéma et la musique aux côtés de Gaspard Huyel. Vous l'avez croisé dans votre carrière, Stéphane Strecker ?
Personnellement, non, mais on a tous été... très touché, on est obligé de penser à Jérémy Régnier dans la mesure où Alma, Jérémy et moi, on était dans l'insouciance la plus totale, on était dans des fous rires quand l'annonce du drame est tombée. Et Alma, comme moi, on sait à quel point c'est le frère de vie de Jérémy. Je sais depuis toujours, il me parlait toujours de Gaspard, donc ça a été absolument terrifiant. Et donc c'est évidemment un choc, c'est un acteur incandescent, magnifique, et sa destinée est tragique, et c'est insupportable pour ceux qui restent.
Alma, vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, j'ai eu la chance de le connaître un peu, mais c'est tellement rien par rapport à tous mes proches qu'ils connaissaient vraiment très intimement, donc je sais qu'ils ont beaucoup de douleurs et de peines, et
Et c'est pas pour rien si tout le monde disait du bien de lui. Ouais. Évidemment, il nous confiait dans cette bande originale d'être venu au cinéma par hasard. C'est pas un hasard si tous ses amis, toute sa famille et tout le cinéma le pleurent. Et les chaînes de télé d'ailleurs, que ce soit Canal, France 3, France 2, tout le monde rend hommage évidemment en revoyant le talent de Gaspard Huyel. Ça sera encore le cas dimanche soir pour voir le film de Gisine Trier qui s'appelle Sibylle avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos et Gaspard Huyel, et à nouveau toutes nos pensées à sa famille. L'ennemi, Stéphane Strecker, en salle le 26 janvier, et les prix de la semaine tout de suite donnés par Tom Villa. Quel genre de prix ? Qui sont les nommés ?
Aujourd'hui, on va décerner le prix du winner de la semaine, et dans cette catégorie, les nommés sont...
Votez pour moi, le programme, j'en ai pas.
premier nommé, c'est l'application Élise, qui a été téléchargée plus d'un million de fois et qui vous permet de savoir avec quel candidat à la présidentielle vous matchez en vous en faisant sweeper les propositions. C'est une appli qui va permettre à Jean Lassalle de découvrir son programme. Deuxième nommé, Jean-Michel Blanquer. Jean-Mich qui a réussi à mobiliser encore plus de profs contre lui, entre les diverses réformes de l'école, le burn-out des profs, les protocoles sanitaires qui ferment des classes un jour sur deux. La dernière, il s'est fait choper pour avoir été en vacances à Ibiza pour le réveillon. Alors là, Jean-Mich, il va nous faire le triplé Coupe Championnat Ligue des Champions. Non content d'avoir le physique, il a en plus l'esprit pour gagner un dîner de con. Bravo.
Tangle, tangourou, tourne tout autour de nous.
Troisième et dernier nommé, Novak Djokovic, qui s'est rendu en Australie pour jouer le tournoi de Melbourne, mais comme il n'avait pas fait son vaccin Covid, il a été expulsé du pays. Ça se voit, Djokovic, il ne voyage pas en écho. Parce que 24 heures de vol à peine arrivé, il se fait dégager pour repartir. Moi, à sa place, je me fais vacciner direct. Il n'y a plus de Pfizer. Mettez-moi du Spoutnik. J'en ai rien à foutre. Vraiment, ouais. Et le grand gagnant dans la catégorie du winner de la semaine.
L'application.
Élise,
bah ouais, c'est dingue ça.
Alors. Parce que moi, je sais pas vous en ce moment, c'est vrai que moi, je suis un peu perdu en politique. Et déjà, il y a plus de courant que dans une rivière. Entre la gauche, l'extrême gauche, la demi-gauche, la gauche molle, la gauche qui se rétracte, le centre gauche, le centre droit, la droite centriste, la droite, l'extrême droite, l'extrême extrême droite, la droite dure, la droite coup de poing, la droite coup de boule. Enfin, et puis pardon, mais le nombre de candidats qui finalement renoncent, c'est une élection ou c'est le Vendée Globe? Comment ça se passe? Puis il y a ceux qui renoncent pas, mais qui n'ont pas les 500 signatures. Ça, c'est, donc on a le droit de parler d'un truc qu'on va pas faire. Bah attendez, je vous ai pas dit, la saison prochaine, je me lance en Formule 1. J'ai pas l'écurie, j'ai pas la bagnole, j'ai pas la combi, mais j'ai si, je vais les niquer Verstappen et Hamilton, bien sûr. Alors, politiquement, je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que je suis un peu perdu. Heureusement, la technologie nous sauvera tous. L'application la plus téléchargée depuis une semaine, après tous anti-Covid et Doctolib, évidemment, c'est l'application Élise. Donc, c'est une application qui permet de découvrir avec quel candidat vous matchez le plus. Donc, on vous présente des propositions de candidats. Vous swipez à gauche si vous êtes pas d'accord, et à droite si vous êtes d'accord. Et ensuite, en fonction des propositions avec lesquelles vous êtes d'accord, on vous donne le candidat dont vous êtes le plus proche des idées.
Le tiercé.
Ouais, certains disent que c'est un peu le Tinder de la politique. Mmh. Alors sur la forme oui, sur le fond non, parce que Tinder, si tu choisis mal, au pire ça te coûte un café. Là, cette application, même en choisissant le moins pire, tu t'en prends pour 5 ans. Donc, mais il y a un petit côté ludique. C'est vrai que quand les propositions arrivent à l'écran, elles sont anonymes, on ne sait pas quel candidat propose telle ou telle chose. Ça, il y a un petit côté Trivial Poursuite, mais en pas drôle. Enfin, le Trivial Poursuite, quoi. Et parce que tu essaies de te rappeler qui a dit quoi. Alors attendez, retournez au franc. Merde, c'est Marine Le Pen ou c'est Dupont-Aignan? Ah merde, c'était François Asselineau, ah dis donc. Alors, le petit souci pour l'application, c'est que Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat. Donc les développeurs, ils ont mis ses promesses, mais de 2017. Donc du coup, bah il y a l'interdiction du glyphosate. Bonne vanne. Voilà. Moi je suis pour, lui aussi, mais a priori il a oublié.
Il a gagné la Coupe du Monde en 2018.
Non, c'est une application qui est intéressante pour les gens qui savent pas quel candidat correspond à leurs idées, mais ça peut être très décevant. Non, pire, déceptif. T'imagines, tu penses être la France insoumise, tu fais le test et Macron premier tour, tu fais merde. Tu te convertis, tu suicides. Alors je l'ai fait. Donc tu réponds à des questions et tout, et je peux pas vous dire le...
Ah bah, on sait, t'inquiète pas, on sait.
Bon, je vais vous dire, mais alors non, attendez, je préfère anticiper. Vous allez avoir un étonnement.
Oui, oui.
Léger, un gros rire, puis un étonnement très fort, un rire étouffé, un début de collapse et beaucoup d'interrogations. C'est en fait, en répondant à la première salve de questions, le premier choix que me propose... je peux pas vous dire. Non, mais même moi, je vous jure, j'étais pas prêt. J'ai fait... attention, bon.
Allez, vas-y.
Je te jure que c'est vrai. Alors,
mais non.
Nicolas Dupont-Aignan.
Quoi? Non.
Je rappelle. Toi étonnement léger, gros rire, étonnement très fort, un rire étouffé, beaucoup de questions. Et en deux, l'application me propose Philippe Poutou. Donc là, si tu veux, j'ai eu Jean-Claude Van Damme, il fait, un conseil, échauffe-toi. Je veux dire, en gros, pour vous expliquer, Dupont-Aignan et Poutou, c'est deux options que j'avais absolument pas envisagées. Et en plus, l'appli est formelle, je suis d'accord avec 100% des propositions des deux.
Écoute.
Alors attendez, non, en fait il y a deux propositions, donc on redescend, on pète un coup, tout va bien. Du coup, avec quelle proposition du poignant je suis d'accord? Lancer un plan de sauvegarde des établissements et du patrimoine culturel, et exiger que tous les candidats aient un mandat électif et un casier judiciaire vierge. Voilà, donc ça va, je suis pas si proche de lui. Tu sais quoi, finalement cette application en fait, elle est super, mais faut approfondir le sujet. Parce que sinon c'est un peu comme en boîte de nuit, t'arrives à minuit plein de certitudes en visant les plus belles, et puis tu repars à 5h avec la moche, et en plus elle vomit dans ta voiture, si t'es pas vigilant. Allez, bonne journée.
Merci, Tobias.
Les hommes ont dit là, on se retrouve à partir du 29 janvier, tous les samedis à 17h à l'Européen.
Avec Nicolas Dupoyer en première
partie. Voilà. Guy Pastureau, bonjour, oui. Bonjour. Tu nous parles de quoi tout à l'heure?
Je vais vous parler de l'invention en supermarché de la blabla caisse. C'est une caisse où on prend son temps et on discute avec la caissière. Moi, je trouve ça affreux, tous ces contacts humains, mais les gens normaux adorent.
Bonjour. Daniel Morin.
Bonjour.
Et nos invités, Alma Jodorowsky et Stéphane Strecker. Nous parlons de L'Ennemi, ce film qui sort ce mercredi dans 4 dodos, qui sortira pour... il est déjà sorti en Belgique d'ailleurs ou...
Il sort la même date, le 26.
C'était important pour vous d'être
C'est bien.
En même temps ou ça se décide pas, ce sont les producteurs distributeurs qui font.
C'est les distributeurs qui décident. Là ça tombait bien.
Vous dites que c'est un film sur
la 5 dodos.
Pardon. Sur
ça me rend folle de devoir raconter ça.
T'as compté les dodos.
Oui, je sais mais j'adore. Ça m'obsède après.
J'adore.
Enfin, quand tu travailles avec Nagui, t'es obligé d'être précis parce que lui. Et il est où le ministre? Il y a pas de ministre.
C'est vrai que ce film au-delà d'une histoire d'amour violente, au-delà d'un fait divers et d'un ou suicide ou crime, meurtre ou accident, parce que il y a aussi on n'a pas évoqué cette possibilité là de se dire mais est-ce que finalement c'était pas un jeu sexuel qui a dérapé aussi, parce qu'il faut préciser qu'elle a été retrouvée morte avec un sac en plastique sur la tête. C'est pas toujours toutes les minutes qu'on se retrouve dans cette situation là.
Il y a des soirées.
Vous dites que c'est un film sur la Belgique parce que la barrière de la langue essentiellement.
Oui, pas que. Il y a un côté un peu absurde quand même dans cette histoire, cette notoriété de quelqu'un qui n'est pas connu dans son propre pays. C'est quand même assez rare. C'est l'histoire de traduction dont on a parlé
tout
à l'heure.
En France, hein, vous savez, il est pas connu dans son propre pays.
Par contre, dans les prisons.
La traduction, ouais.
Non, mais moi, j'adore la Belgique aussi pour ça, parce que, écoutez, culturellement, il y a quoi? Il y a les Latins et il y a les Germains. Mmh. Ben, la Belgique, c'est les deux. On a très, très peu de points communs. Vous savez, les acteurs flamands que vous avez cités, avec un accent que je trouvais assez mignon d'ailleurs, les quatre sont en fait des stars en Flandre. Mais vraiment. Alors là, pour le coup, les quatre sont extrêmement connus. Mais on les connaît même pas en Belgique francophone. Et je trouve intéressant de savoir que, culturellement, j'ai beaucoup plus de points communs avec tous les Français qu'avec mes compatriotes. Mmh. Et on se rejoint bizarrement.
Et vous parlez flamand, vous?
Moi, je parle flamand, oui. Mais on se rejoint bizarrement sur les Diables Rouges. C'est le truc...
le football.
Symbolique. Alors, imaginez pas symboliquement à quel point c'est important.
Et Angèle.
En plus et plein d'autres. Mais même au niveau du foot...
Qui chante en flamand dans Bruxelles, je t'aime, d'ailleurs. Il y a un couplet en flamand.
Elle est merveilleuse, Angèle. Génial, vraiment. Mais, par exemple, bon, Kevin De Bruyne est flamand et Eden Hazard est francophone.
Sauf que dans votre film, le petit garçon qui joue au foot sur la plage a un maillot de De Bruyne.
Mais parce que c'est mon joueur préféré belge de tous les temps.
Alma Jodorowsky, tout à l'heure, Stéphane Strecker, réalisateur et auteur de ce film, disait qu'il y avait le script, les fondamentaux, entre guillemets, dans l'écriture du film, mais qu'il y avait aussi une liberté laissée aux actrices et aux acteurs. À quel endroit avez-vous exercé cette liberté, à part l'improvisation dont on a parlé pour l'ouverture du film?
Il avait envie, je crois, de s'inspirer déjà de ce qu'on apportait, nous, en termes d'énergie, de personnalité, et à quel point on pouvait avoir des ponts avec les personnages qu'il avait écrits et les créés. Après, on a beaucoup improvisé sur tout ce qui était physique, parce que c'est vrai que toute la première partie du film, il y a beaucoup de choses qui passent aussi par les corps. Donc, il y a la scène de sexe dont on a parlé, mais pas seulement. Enfin, il y a la danse, il y a le mariage.
Il y a la course sur la plage.
Exactement,
aussi, où vous jouez, chaperché.
Ouais, mais justement, c'est des scènes assez ambiguës, parce que il y a énormément de choses qui s'expriment par le corps dans cette limite entre l'amour et la violence.
Comme une chorégraphie qui s'installe entre vous.
Voilà. Le prédateur, même.
Ouais. Et avec Jérémy, on a vraiment eu cette connexion sur cette envie de travailler aussi avec notre corps, ce qui pouvait s'exprimer sur leur relation.
Jérémy dit souvent qu'il trouve que le film est organique. Et je suis très heureux quand il dit ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça. Mais c'était une grande chance pour moi que d'avoir des acteurs qui proposent tout le temps. Et c'est pas habituel. Et en plus, j'aime à dire que quand je ne suis pas d'accord, il n'entrait pas dans un discours contradictoire. Parce que je veux dire, voilà, on revenait
Alma,
au fondement.
Alma réalise, Jérémy.
Emmanuel Berco réalise. Beaucoup plus prestigieuse que je ne le suis. Bruno Van den Broek réalise, Félix Marito va réaliser. J'étais cerné de réalisateur. Et je trouve que c'était une chance de dingue. Parce qu'en fait, ils comprennent très vite pourquoi ils considèrent que ce n'était pas gratuit. Et Jérémy réalise aussi.
Oui, bien sûr. Et respecte vos décisions.
Oh oui, moi c'était vraiment. Enfin, on a vécu quelque chose de très, 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 très fort. Moi, certainement, travailler avec ces acteurs-là a été ce que j'ai vécu le plus beau depuis que j'ai la chance de faire des films, ça c'est sûr.
Les Nuits, ce mercredi, au cinéma, réalisé par Stéphane Strecker, avec Alma Jodorowsky, qui est notre invité, Jérémy Régnier. Voici Tanguy Pasturo.
C'est de plus en plus dur d'arriver à se parler. On est tous là à s'agiter comme des têtards dans un étang ou des candidats à la présidentielle chez Baba sur C8. Depuis combien de temps n'avez-vous pas parlé à quelqu'un qui vous regarde vraiment au lieu de regarder son téléphone? Nous ne sommes déjà plus des humains, juste des extensions de produits Apple qui se frôlent mais ne se rencontrent plus. Oui, je mets toujours une ou deux phrases qui épatent l'auditeur d'Inter. Ça fait que si plus loin j'ai une blague sur les pénis, on me pardonne. Non mais avant, au Moyen-Âge, par exemple, on se parlait. On n'était pas là à s'auto-médicamenter sur Doctissimo. Quand ça allait mal, on allait voir une sorcière. Elle préparait une émulsion à base de bave, de limaces, de programmes de Jean Lassalle et de Corbeau, l'ancêtre des Chicken Wings. Puis on mourait, tandis qu'elle s'écriait « Oh la conne, j'ai confondu le pot de baffe de limace avec l'arsenic vivement 1948, que naisse Alain Flou, parce que j'y vois que dalle. Hein. » Mais il y avait de l'échange, c'était la base de la société. Il fallait voir pendant la guerre les conversations interminables avec les Allemands pour leur expliquer dans quel appartement il y avait des Juifs. On discutait, mais aujourd'hui c'est fini. Dans une même famille, chacun est sur son 06, le père sur une appli de rencontre, où il y a écrit « Zéro résultat pour votre recherche », et il se dit, je comprends pas. En mots-clés, j'avais mis Eurasienne, 19 ans, chaude, SM top modèle dans la Nièvre. Oh. C'était pourtant large. Ah, pendant ce temps, la mère sur Adopte un mec contemple effarée la fiche de son mari en disant, je comprends pas. J'avais tapé beau gosse, pecto, maxi pénis. Vous voyez? Et je tombe sur Jean-Roger. Et les trois gosses sont aussi sur leur téléphone à acheter du shit en se disant, c'est bizarre, le dealer ressemble quand même pas mal à papa. Hein, et si le DRS5 coupé qu'il vient d'acheter, il ne l'avait pas fait avec son salaire de prof de maths. Les gens ne se parlent plus. Nagui, ça fait combien de temps que vous m'avez pas appelé mon bichon? Me caressant les cheveux. Ben, je suis obligé de rêver la nuit pour que ça se passe. Et il me faut 4 Stilnox mélangés à du rhum pour que ça vienne. Parce que sinon, spontanément, il y a Laetitia Casta qui vient se mettre à votre place. En fait, pour se parler, il faut aller à Chartres. Oui, à Chartres. Cette ville d'autant plus magnifique qu'elle est proche de Paris. Donc, quand on y joue en spectacle, on rentre dormir chez soi après. À l'Élysée, il n'y a que des gens de Perpignan ou de Valoris. Hein, Chartres, où Henri IV fut sacré roi en 1594 et où naquit en 1970 Cécile de Ménibus. Eh bien, à Chartres, il y a un supermarché Carrefour. Alors en ce moment, j'ai checké les promos, il y a moins 70% sur le papier toilette Renoma. C'est cool. Ah, vous savez, c'est ce papier toilette très coloré. Il y en a du jaune fluo. Parfois, il déteint, vous vous retrouvez avec les fesses jaunes, comme Pac-Man. Il vaut mieux pas ensuite croiser un fantôme un peu hot. Bref, à Chartres, il y a un Carrefour. Et dans ce Carrefour, ils ont mis une hôtesse de caisse, Marie-Christine. Vous savez, ce sont ces gens qu'on a mis au chômage en bipant nous-mêmes nos achats à la caisse automatique qui, tous les deux produits, nous dit « Erreur, une hôtesse de caisse va arriver ouais. ». C'est-à-dire qu'il y a des dames obligées d'aider ceux qui ont détruit leur emploi. Moi, je leur éclaterais la tête contre l'écran. En Irlande, t'as acheté des tomates, connard. Qu'est-ce que t'as pas compris quand Laurent Mariotte, il dit de bouffer des fruits de saison? Mais j'ai peu de patience. Hein. Mais la caisse automatique a rongé la dernière part d'humanité qui restait en nous. Et c'est dangereux parce que nous aussi, on sera remplacés un jour par des robots. Ici, il y aura XB415 qui dira midi 10, enfin 16, c'est l'heure de FP660 maltraite l'info, FP660, vous allez nous parler des boulons. Bon, et nous, on sera là chez nous en se disant c'est pas juste qu'ils aient gardé Leïla au prétexte qu'ils n'ont pas trouvé de robot qui ait autant de références qu'elle. Mais ce sera affreux quand Eddie Depreto viendra parler de sa névrose, XB415 lui dira ouais, ouais. C'est ça, pleure pas boulot, va à la salle de sport, tu crois que Bouba y déprime. Donc, au Carrefour de Chartres, face à cette robotisation de nos existences, un être sensible a eu une idée, relancer le contact humain, et donc ils ont ouvert une blabla caisse. Alors, c'est comme blabla car, sauf que si vous montez à deux sur le tapis roulant, vous n'allez nulle part. Ouais. Par contre, vous expérimentez la vie d'un bocal de lentilles. Et ça, c'est pas mal. Non, mais la blabla caisse, alors c'est une caisse où on prend son temps, et donc on discute avec Marie-Christine, qui vous demande comment ça va, vous répondez, bah pas top, je vis toujours à Chartres. Elle vous parle de vos enfants, des poireaux, de la vie, ce qui était la base du commerce avant, on échangeait. Ah, ce petit salon de massage où j'étais venu pour faire un massage et où j'ai hurlé à cette dame qui se recouvrait d'huile. Mais enfin, que faites-vous? Puis, alors qu'elle se frottait sur moi,
bon d'accord, mais à la base je venais juste me libérer des tensions de la semaine. Vous réalisez qu'on en est à ouvrir des espaces dédiés juste pour se parler, mais quelle tristesse. Alors des blabla caisses, il y en a d'autres, au carrefour du Mans dans la Sarthe par exemple. Pénélope Fillon, il va faire ses courses, elle discute, elle demande à la caissière, vous avez un contrat de travail vous, parce que moi je viens d'apprendre qu'il en fallait un. Hein, et en fait la blabla caisse bah devrait être la norme. Il y a des gens isolés socialement qui n'ont que ce moment là pour parler à quelqu'un. Moi j'ai mes chroniques, donc je peux me passer d'aller chez Carrefour acheter du PQ jaune. Ça fait que j'ai les fesses bien roses. Un vrai petit porc. Hein, si je passe devant l'usine des pâtés et neufs, ça va mal tourner pour moi. Hein, donc boycottons les caisses automatiques qui nous détruisent et discutons avec Marie-Christine et les autres. On aura toute la mort pour se taire, bien sûr.
Merci.
Et Tanguy, on se retrouve sur scène jeudi prochain à Saint-Étienne.
Oui.
Le film de Stéphane Strecker sort donc ce mercredi au cinéma, ça s'appelle L'ennemi, d'autres événements culturels, Leïla Kadrouletti.
Quelle vente d'objets culturels repart à la hausse pour la première fois depuis plus de 17 ans aux États-Unis.
Les tableaux.
Pas les tableaux, les pas les cassettes non plus.
Les CD?
Absolument.
Les posters.
La vente de CD, complètement fou. Ce sont la sortie des albums d'Adèle, de Taylor Swift et de BTS qui ont permis à ce support qu'on croyait complètement dépassé de revenir en fanfare.
Oui, parce que le vinyle avait à nouveau dépassé la vente de CD en disque matériel, évidemment, tout le monde allant sur les plateformes numériques.
Ouais. Et l'expression « revenir en fanfare » n'est pas encore revenu en fanfare. Non,
mais... Je l'adore. Oui, je suis une vieille dame, je sais, je suis une vieille dame. Quel genre de consommateur de musique êtes-vous, tous les deux, Alma? Comment
Moi, je suis très grande consommatrice de musique, j'adore. Après, c'est vrai que le CD, je ne suis pas encore revenue, j'achète des vinyles.
Vous avez gardé vos vieux CD?
J'ai déménagé il n'y a pas longtemps et j'ai dû faire un tri. Ah. C'était horrible, vraiment horrible, parce que l'époque où j'ai acheté le plus de CD, c'était mon adolescence. Ouais. Et forcément, il y a beaucoup de nostalgie. Donc j'ai gardé quelques-uns dont je ne peux pas me séparer, du genre Jennifer Lopez, ouais. L5.
Ouais. Allez, L5.
Laurie.
Linkin Park. J'ai pioché quelques extrêmes comme ça de mon adolescence.
Et, oui. Et vous, Stéphane, vous consommez la musique comment? Quel support?
Oui, j'ai une application, donc c'est en streaming maintenant, mais j'écoute quand même des trucs qui n'étaient pas en streaming et qui sont mes anciens CD, dont j'écoute énormément Bruce Springsteen, George Michael, Prince.
Et quel genre de musique vous aimez? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez en ce moment? Qu'est-ce qui tourne souvent chez vous, Alma?
En ce moment, je suis un peu retournée au classique. J'arrive jamais
à
trop.
Il y a un nouveau placebo qui arrive, qui est dingue. Faut l'écouter.
Je suis replongée. Enfin, en même temps, je ne déplonge jamais des Beatles, mais c'est vrai qu'avec le documentaire Get Back
sur Disney,
j'écoute cet album
Il est incroyable. Il faut non seulement écouter l'album en boucle, mais écouter l'album Naked qui est sorti ensuite, c'est-à-dire qui a été non pas mixé, produit par Phil Spector, ou qui a fait trop de Phil Spector dans ses productions, mais qui est revenu à l'essence même de ce qu'ils avaient fait en studio. Ouais. Et de voir qui a d'abord quitté les Beatles, comment ça s'est passé, et comment Yoko Ono était collée à John Lennon pour toutes les sessions.
C'est très étrange, mais le documentaire est fantastique.
Et cette phrase formidable de Paul McCartney qui dit, si on dit à John Lennon de choisir entre Yoko Ono et les Beatles, il choisira Yoko Ono, donc laissons-la venir en studio.
Moi j'ai entendu que c'était aussi un peu une petite guéguerre en fait entre Paul et John, parce que Paul avait dit qu'il voulait qu'il n'y ait aucune femme qui vienne en studio, et du coup c'était un peu une espèce de provocation aussi. Donc c'est pour ça qu'après on voit aussi Linda aussi. Arrive après, donc il y avait plein de choses qui se jouent en
Janine aussi, qu'on ne connaît pas, mais
qui était là aussi derrière la porte.
Autre question, si je vous parle de Genius, un documentaire annoncé sur Netflix, je parle de quoi?
Genius. Mais jean quoi, le pantalon?
Non, Genius, le génie quoi.
Genius.
Non, jean, J.
Moi j'ai compris Genius, c'est-à-dire j'ai pensé jeunesse et pantalon.
Si vous me laissez parler, je vais vous donner le titre.
Oh, ça va.
Ah bah si, ça va, mais bon.
Alors Jennifer de la Star Academy.
Non, c'est J-E-E-N et Yus, Y-U-H-S. C'est un documentaire sur Netflix qu'on cherche.
Est-ce que c'est un groupe genre de K-pop ou un truc du style?
Non.
Mais ça veut dire quelque chose?
Je sais pas du tout, je suis perdu.
Le titre veut dire quelque
chose? Ça sera une trilogie sur un artiste très très connu qui aime changer de nom.
Kanye West?
Absolument. Ah, bravo. Morgane.
Non, tu vas parler.
Une trilogie sur Kanye West. La première partie du documentaire sera diffusée à partir du 16 février. Don't let the lies down. 21 années d'images d'archives inédites, c'est la promesse de Netflix pour ce programme. La sortie aux États-Unis se fera aussi dans certains cinémas le temps d'une journée, histoire de marquer le coup. Qu'est-ce que vous regardez sur les plateformes avec beaucoup d'assiduité? Est-ce que vous regardez des documentaires, des séries? Quel genre de format vous plaît le plus?
Mais en fait, je trouve qu'avec Netflix, on a quand même découvert... on a un peu redécouvert le documentaire, qui était un genre qui intéressait un petit peu moins. J'en ai vu plusieurs qui m'ont vraiment fort impressionné, notamment celui sur l'affaire Grégory, que j'ai trouvé assez remarquable. Là, ça rappelle à quel point c'est le fait divers qui a marqué le plus de gens. Il y a tellement d'éléments, d'événements absolument incroyables.
Mais vous regardez que les faits divers, les meurtres, les assassinats?
Non, pas du tout. Non. Alors, c'est marrant, parce que j'ai cité un autre, c'est sur O.J. Simpson, et c'est aussi un meurtre. je l'ai pas fait exprès, parce que je suis certain que...
Non, parce qu'il y a des docs sur la planète, contre sur le sucre aussi, il y a...
Contre la planète.
Non, enfin, d'accord, défendre la planète.
Non, mais je trouve que le point de vue qui était porté sur cette histoire était absolument incroyable. D'accord. Vraiment.
Et vous, Alma? Moi, je regarde beaucoup de séries, évidemment. Euphoria, en ce moment, qui est en train de diffuser la deuxième saison. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable. Et maintenant, les séries, de toute façon, sont une telle qualité de mise en scène, d'images, de jeux. Enfin, c'est hallucinant. Et je trouve que cette série, elle en est vraiment le témoin le plus fort en ce moment, quoi.
Série, d'ailleurs, vous allez tourner dans une série pour Canal qui s'appelle Threesome.
Ouais, je l'ai déjà.
Qui est le mot le plus recherché sur le moteur de recherche de Daniel Morin, mais.
Juste après Nagui. On vous a vu dans Le Serpent aussi.
Ça a déjà été tourné?
Ouais, ça a déjà été tourné, ça a déjà été diffusé en Suède. Donc, c'est une série suédoise qui se déroule en Angleterre. Donc, c'est en anglais et suédois, mais avec beaucoup de personnages anglo-saxons.
Comment on se retrouve dans ce genre de projet? C'est le travail de l'agent? C'est vous qui avez démarché ou vous étiez déjà en contact avec eux?
Je pense que c'est par mon agent. Enfin, en tout cas, j'ai reçu une proposition de rencontre et d'essai et ça s'est fait. Et puis voilà, quoi, je me suis retrouvée là-dedans. Mais c'est super parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu la chance de travailler pas mal à l'étranger. La Belgique, c'est pas aussi loin que la Suède, mais c'est aussi un autre pays. La Suède, l'Italie, où j'ai tourné un film polonais qui va sortir aussi au printemps, qui s'appelle Dryland.
Ne me dis pas que vous parlez cette langue.
Non, j'aime bien laisser planer un peu le mystère, mais non. Malheureusement, à chaque fois, je joue une Française, donc je peux parler anglais avec mon accent français, tout va bien.
Ouais, c'est so cute, en plus, ils adorent.
C'est so cute,
non. J'imagine, parce que si, est-ce qu'ils vous demandent de l'accentuer, d'ailleurs, entre guillemets, de ne pas trop chercher à parler, à faire l'anglaise?
Non, pas du tout. Et après, j'ai un accent français, mais bon, je parle plutôt bien anglais, et je pense que ça plaît aussi à l'étranger, parce que malgré tout, pour la compréhension, c'est quand même bien de pas trop forcer sur l'accent français, sinon c'est compliqué.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écrire à une réalisatrice ou un réalisateur en disant « j'aimerais travailler avec vous » ?
Oui. Ouais. Mais souvent des personnes que j'ai déjà croisées. Je suis quelqu'un d'assez réservé de prime abord, donc quand je parle avec quelqu'un que je rencontre et que j'admire, je vais pas forcément tout de suite lui dire ah bon en fait ça serait super machin.
Bah, faut pas prendre sa voix de toute façon. On va pas lui parler comme ça. Hein.
Ça dépend si c'est pour faire les Simpsons, on sait jamais. Hein.
Mise à part les Simpsons, non mais prenez une voix normale.
Ok, je suivrai vos conseils. Je prendrai une voix très suave. Voilà. Ici.
Ou pas.
J'enverrai un petit message a posteriori.
Et vous l'avez déjà fait et ça a été
couronné de succès.
Couronné de succès, merci.
Oui.
En fanfare.
Ouais. Une fois, oui, mais un peu malgré moi. En fait, il m'est arrivé de parler d'un réalisateur dans une interview. Le journaliste m'a demandé quel film j'avais aimé récemment et je lui ai dit c'était au moment de la sortie de La Loi de la Jungle d'Antonin Parejetko et je lui ai dit ce film. Et puis, mais il a écrit dans l'interview j'adorerais tourner avec Antonin Parejetko. Moi, j'étais extrêmement gênée parce que je l'avais pas formulé de cette manière-là. Je me sentais un peu trahie. Et finalement, quelques mois plus tard, il m'a contacté. Et puis là, on a tourné deux courts-métrages et un moyen-métrage ensemble sur cette dernière année.
Et vous avez reversé 10% de votre cachet à ce journaliste qui a été intermédiaire.
Non, mais en tout cas, je le salue, journaliste d'Allociné.
Comment se construit d'ailleurs un casting dans vos films, Stéphane? Parce qu'on a compris que vous aviez des acteurs entre guillemets fétiches, mais aussi vous proposez, vous essayez, vous discutez avec quelqu'un, vous avez vous-même un agent qui vous propose, comment ça se passe?
Non, en fait, j'adore ça, en fait. C'est vraiment une phase de travail que j'adore. J'avais écrit en pensant à Sam Lewick, Très vite pour le rôle principal, Jérémy Régnier, parce que j'ai une admiration sans bande pour lui. Il se fait qu'en Belgique tout le monde se connaît, mais on se connaissait pas bizarrement.
Il faut rappeler que Jérémy est belge, parce qu'on
oublie qu'il est belge. Oui. C'est un acteur du cinéma français, absolument, mais il est évidemment belge. Et donc la chance que j'ai eu, c'est quand je l'ai appelé, il m'a tout de suite dit ah mais voilà, j'ai vraiment adoré Nos, qui était mon film précédent. J'ai dit, mais j'ai un scénario pour vous. Il dit envoyez-le-moi. Le lendemain, il m'a appelé. On s'est vu et on a vraiment construit le casting en fait à deux. Et
Jérémy.
Mais bien sûr que oui, parce que c'est lui qui m'a suggéré Alma Jodorowsky. J'ai fait les essais sans Jérémy. Et voilà, il a plaidé pour Emmanuel Berco. Donc vraiment, enfin, Jérémy et moi, on était extrêmement proches dans ce travail-là. Félix Marito, ça vraiment pour le coup, je l'avais découvert dans 120 battements, ouais, et j'étais certain qu'il serait fantastique pour Pablo. Donc ça, c'était moi. Et alors Zachary Chassurio, j'avais tourné avec lui dans Nos. Mais et Jérémy a découvert les acteurs flamands qui ne connaissait pas. Et là, il y a eu aussi que Jérémy est très connu en Flandre, en fait. C'est un des acteurs belges francophones les plus connus en Flandre. Et ils étaient très contents de lui donner la réplique.
Est-ce que c'est vous qui êtes à la caméra? Est-ce que c'est vous? Parce qu'il y a beaucoup de séquences filmées portables, j'allais dire, en mouvement. Vous cadrez?
Je décide du cadre, je n'opère pas.
D'accord.
Je n'opère pas parce que je pense que c'est pas tout à fait la place la plus idéale. J'ai un excellent cadreur. Mais en tous les cas, la place de la caméra, je pense que ça appartient au réalisateur. Ça, c'est vraiment mon travail, mais opérer, je pense que c'est mieux d'avoir un tout petit peu
de recul.
Un tout petit peu.
Ça s'appelle L'ennemi, donc, et c'est au cinéma ce mercredi. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour tous mes camarades là qui n'ont pas eu droit dans cette émission à un drôle de Stéphane Stricker, notre invité. Bah non, les amis, vous n'avez pas été validé par Stéphane. Voilà, c'est un échec, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je l'ai eu, le drôle. Voilà, c'est tout. C'est un homme éclairé, il ne faut pas lui en vouloir. Désolé pour Alma Jodorowsky qui a découvert ce matin l'inélégance de Nagui, qui lui a fait subtilement comprendre qu'il avait oublié qu'elle était déjà venue dans l'émission. Quelle cuisse, quel mufle, quel goujat immonde salaud. Moi, je m'en souviens parfaitement. C'était le mercredi 14 décembre 2016. On recevait Olivia Sayas de mémoire pour Personal Shopper. Les interventions étaient brillantes. Et croyez-moi, si Stéphane avait été là, j'aurais droit à des drôles. Désolé pour les producteurs du film qui ont découvert ce matin l'escroc qu'était le réalisateur Stéphane Stricker. Franchement, un type qui sait pas que ce comédien parle cette langue, que sa comédienne qu'il doit faire chanter est aussi chanteuse. Oh la honte, on dirait Nagui qui se souvient pas qu'on a reçu un... Désolé, enfin pour nos amis belges qui ont appris ce matin, ont des hommes politiques qui ne parlent pas la langue de tous leurs compatriotes. Le pays pourri. C'est comme si à la radio publique française, à une heure de grande écoute, on mettait un animateur qui confond ministre et député. Ce serait tellement la honte. Nagui, finalement,
ça
drôle.
Drôle. Merci beaucoup. Merci Alma. Merci Stéphane. Je rappelle ce film avec Jérémy Régnier au cinéma mercredi. Puis on continuera un peu, je pense, d'évoquer la Belgique avec Benoît Poelvoort qui sera notre invité lundi aux côtés d'Edouard Baird pour Adieu Paris. Passez un bon week-end sur Inter.
Bon week-end.